Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 31 mai 1995.
Donc nous sommes dans ce problème très difficile à préciser. Le développement de l'affectivité. Et vous comprenez que c'est capital. Alors on a une perspective, c'est la perspective freudienne. Et il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la perspective freudienne en France, puis en Amérique, les Américains sont toujours plus avancés pour ça. Et puis, Freud est européen. Et l'Europe garde son bien. Parce qu'il ne cherche pas la vérité. L'Amérique a beaucoup plus rejeté Freud. Et beaucoup plus vite que la France. Au fond, il y a un vieux conservatisme européen. Ces gens-là, et le clergé aussi, du moins beaucoup, disons, beaucoup, pas tous, c'est évident. Et on ne peut pas accepter Freud. Pourquoi ? C'est ça qu'il faut chercher. C'est vrai que c'est pas commode du tout de comprendre Freud uniquement par ses livres. Je crois que ce qu'il faut, c'est un dialogue avec des psychanalystes freudiens. Grâce à Dieu, j'ai eu ce dialogue, ce qui m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est là où on voit combien c'est d'ordre pratique. L'erreur de Freud, c'est d'avoir voulu, vous voyez, toujours la même tentation. C'est de vouloir que la psychologie devienne une philosophie. Moi, je crois que c'est là la tentation permanente. Vous voyez, on a vu ça même avec Janine du Canada. C'est qu'elle voulait conceptualiser. Et quand elle a dit, pour conceptualiser, je prends Piaget. Moi, ça m'a beaucoup éclairé. Parce que la conceptualisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'aspect psychologique est descriptif et essaie de saisir des liens de nécessité. Toujours le même si PQ, antécédent et conséquent. Alors quand on voit telle réaction, on regarde l'autre. Et au bout d'un certain temps, quand on voit cette répétition, on dit voilà, il y a un lien de connexion. Ça reste toujours. Utin pluribus, la plupart du temps c'est comme ça. Alors on ne peut pas conceptualiser au sens fort, surprenant conceptualiser au sens fort, c'est-à-dire rendre scientifique en cherchant les causes. Surtout avec Piaget, puisque Piaget est très positiviste. Alors je crois que c'est un problème pour ceux qui s'intéressent à la psychologie, pour ceux qui s'intéressent à la croissance de la vie et donc le fondement de toute pédagogie et de toute éducation. Bon, pour nous, ça nous intéresse avec Saint-Jean Éducation. Si vraiment on veut Saint-Jean Éducation, on doit faire quelque chose qui soit vrai. Et non pas piller à droite et à gauche pour faire une espèce de... Parce que le point de vue éducation est un art. Et c'est quand même quelque chose de tellement important sur lequel le Saint-Père insiste énormément. Parce qu'il faut bien se dire, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'éducation. Dans les familles chrétiennes, encore, mais en dehors, dans l'école, il n'y a plus beaucoup d'éducation, de véritable éducation. On regarde tout du côté des examens. Et ce sont les résultats des examens qui font la qualité d'une école. est effrayant. Et avec le point de vue d'aujourd'hui, de l'influence freudienne, tout est orienté vers le point de vue sexuel. Bon, on le sait, et on le sait, moi je le sais indirectement, parce que je ne suis pas spécialisé là-dessus, mais Freud m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est quand même un point, il faut bien se le dire, révolutionnaire. Oui, qui peut avoir du bon. Freud, comme médecin, a sûrement été quelqu'un de génial. Mais, au point de vue des idées, c'est différent. Génial, au point de vue générosité, oui. Donc lui-même, ben, ça c'est sûr qu'il avait, un amour très grand pour ses malades. On ne peut pas nier. Mais il lui manquait une philosophie. Et une philosophie vraie de la personne humaine. Puisque quand on éduque une personne. Et donc si on éduque une personne, on doit savoir ce que c'est qu'une personne humaine. Et on ne peut savoir ce que c'est qu'une personne humaine qu'au niveau philosophique ou au niveau théologique. Et comme la théologie dépend de la philosophie, c'est bien au niveau philosophique que le bas blesse et qu'il y a là des difficultés. Alors, je crois que l'erreur fondamentale de Freud, c'est de tout fonder sur l'inconscient. Tout le domaine affectif sur l'inconscient. Vous voyez, l'inconscient ne peut pas être quelque chose de premier. Puisque l'inconscient provient des refoulements. Donc c'est quelque chose de second. Et quand on veut définir ce que c'est que l'inconscient, je l'ai posé plusieurs fois à ces psychanalystes. Ils ne savent pas. Ils donnent des exemples. L'inconscient. Mais qu'est-ce que c'est ? Et je comprends très bien, je crois que ça ne peut pas se définir, puisque c'est inconscient. Par définition, ça échappe. C'est une espèce d'abîme qui remonte. Alors ça, c'est très vrai. Les gens qui sont chargés d'inconscient, quand ils se mettent à raconter ce qui s'est passé, c'est volcanique. Enfin, c'est affolant. Et ça, alors je comprends très bien comme psychanalyste, devant ça, dites voilà, c'est fou, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est vraiment volcanique, ça fume, puis après c'est de la lave, ça inonde tout. Et quand vous êtes là, vous recevez ça, et c'est de la lave bouillante, vous savez plus. Parce que c'est de la lave, alors on ne sait plus comment la prendre. Alors, il faudrait la boire, mais on serait complètement étouffé. Il faut comprendre ça. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui sont dans ce métier-là, c'est leur métier. C'est pas comme un du tout. Donc je crois que quand on met le petit doigt dans Freud, tout y passe. Je crois. C'est tellement dialectique. Oui, tout est construit là-dessus. Sur une dialectique, le S, puisque c'est allemand, le sang, alors on dit en français le sang, le surmoi et le moi, et les trois. Et tout est construit là-dessus. Alors le sang, c'est. Oui, il n'y a plus de nature. Nous deux sangs, il y a une nature, le petit enfant, il a une nature. Et l'embryon, il s'est développé naturellement. Et on dit le sang. C'est-à-dire le. Ce. C'est quelque chose. Alors, et quand on dit sur quoi repose cette science? Sur l'inconscient. Et on ne sait pas ce que c'est. Alors que je crois, beaucoup plus profondément, que l'éducation, c'est un art. Et la psychanalyse est un art dans la mesure où elle réussit. Parce que c'est ça qu'il faut regarder d'un art. Un art regarde l'œuvre. Quel est le résultat ? quelqu'un qui dit « Je suis un très grand artiste, montrez ce que vous avez. » Ah, rien, c'est trop beau pour que ça se fasse. Alors vous avez compris. C'est un grand rêve. Mais l'artiste n'est pas un rêveur. Et le rêve peut détruire l'art, comme il peut détruire l'affectivité. Le rêve est très dangereux dans un monde comme le nôtre, parce que on construit un monde de rêve. Et tout est pour alimenter le rêve. Et alors l'art se détruit lui-même. L'artiste fait une œuvre, autrement c'est pas un artiste. Il peut avoir des fantasmes extraordinaires, mais il ne les domine pas, donc il ne fait rien. Et je crois que l'éducation, c'est un art. Au Moyen-Âge, donc Thomas d'Aquin, pour lui, l'éducation, c'est ars adjuvans naturam. C'est un art qui aide le vivant, et ce vivant spirituel qui est l'homme. Alors vous comprenez, si c'est un art adjuvans naturam, donc aidant la nature, si je ne sais pas ce que c'est que la nature, je ne sais plus ce que c'est que l'art. C'est très simple. C'est un art tout entier relatif à la croissance de l'esprit dans le petit homme. La croissance de l'esprit pour arriver à faire que l'esprit domine la matière. Oui, et alors je crois que c'est ça qui est important à voir et qui est très important, et ça, puisqu'il y a Saint Jean Éducation, ayez un chantier, ça vaut la peine, sur l'art de l'éducation. Et vous voyez, l'art de l'éducation présuppose la connaissance de la croissance de l'homme, du côté intellectuel et du côté affectif. Or, pour Freud, la croissance affective se fait en fonction du refoulement et se fait en fonction de cette vision très spéciale de l'homme. Quand on est éveillé, c'est le devoir. Quand on dort, c'est la jouissance. C'est en gros cela. Et donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, ce qu'il y a de vital en nous, c'est le sommeil. Et le devoir, c'est le surmoi. Il faut faire ça, mais il faut faire ça à cause de quoi ? Le surmoi. C'est ça le surmoi. C'est le contexte dans lequel on est, c'est les commandements, c'est l'autorité, c'est tout ce qui vient charger directement le ça pour le diriger. Alors qu'il faudrait qu'il y ait un véritable moi qui est le fruit de l'éducation, qui est le fruit de la croissance. Là, vous moi retenir cela, et je crois qu'on ne peut pas baptiser Freud. Donc il faut, en face de Freud, s'attaquer directement au problème de l'affectivité. Et de l'affectivité passionnelle, et de l'affectivité spirituelle. L'appétit spirituel, l'appétit sensible. Alors là, il y a toute une question très intéressante à comprendre. Comment traduire Appetitus Naturalis de Thomas d'Aquin. Appetitus Naturalis. Vous voyez qui dit l'appétit. Alors on peut traduire appétit, c'est évident. Voir la différence entre appétit et instinct. Problème là, je l'ai posé plusieurs fois, j'ai pas eu encore de solution pour ceux qui disent à quel moment le mot instinct est apparu au plan philosophique, parce que vous le trouvez pas dans Thomas d'Aquin, vous le trouvez pas dans Aristote, différence entre les deux. Appétit, instinct. Et je crois que ça joue beaucoup, parce que toujours les mots charrient quelque chose. Vous voyez, l'appétit, c'est un désir. C'est une orientation. Donc, c'est un élan naturel, déterminé, finalisé. C'est ça le mot de l'appétit naturel. C'est finalisé. C'est ordonné vers quelque chose. C'est ordonné vers un bien, puisque c'est finalisé. Tandis que l'instinct, c'est d'ordre subjectif. C'est un besoin. L'instinct porte sur un besoin, sur quelque chose qui que nous aimons, mais qui est un besoin. C'est une espèce de... Vous voyez, quand on dit un manque, aujourd'hui, tu vois, le manque, et on voit très bien ça pour les toxicomanes, on est habitué à manquer. Celui qui fume, qui est habitué à fumer, du jour au lendemain, il dit « Je ne fume plus, je dois entrer au noviciat ». Ben, les premiers jours, il y a un manque. Il y a un manque. Et quelquefois, ce manque est tellement fort qu'on n'en peut plus. On est capable de quitter le noviciat à cause de ce manque. Je veux plus. Si on le fait astucieusement, on le fait plus lentement, mais quelquefois, volontairement. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très curieux. C'est que le stoïcisme engendre Freud. C'est normal. Parce que si volontaire, on arrête, il faut faire ça. Alors, immédiatement, il y a un refoulement violent. Donc, l'opposé, c'est le manque. Tandis que l'appétit naturel, et on ne va pas dire qu'il y a un manque, c'est, ça reste. Alors, il y a un désir intense, on voit très bien ce que ça veut dire, un désir intense qui peut, par l'imagination, le désir est frustré, il y a une orientation différente. Il n'a qu'à regarder tout simplement le gosse. Quand il appelle le biberon, il a faim. Mais la mère, si elle est astucieuse, fait dévier son désir. Petite cloche qu'on met au cou des vaches. Petite cloche, l'enfant écoute. Il oublie l'appétit naturel. C'est très curieux. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un détournement. Très nettement. Donc il y a un refoulement. Il a refoulé sa vie à une autre chose. Et puis au bout de 3 minutes, la cloche, c'est plus si l'originalité disparaît très vite. On revient à l'appétit naturel. Alors à ce moment-là, se met à lancer dans tous les sens. Alors, il y a le sensible propre et le sensible commun. C'est le mouvement. Et puis on reprend comme ça, tant que le biberon n'est pas chaud. Pour arrêter les cris. C'est très curieux, mais ça se fait naturellement, tout ça. Une merde. Là, si on dit, ah, mais c'est très grave. Vous avez frustré l'enfant. C'est très très grave. C'est tragique. Tout ça est bâti sur le tragique. Hein. Ça, c'est comme si l'enfant n'avait pas beaucoup plus de santé que le philosophe qui réfléchit là-dessus. Il a beaucoup moins réfléchi, donc c'est beaucoup plus sain. S-A-I-N. C'est la nature, ça c'est la complexité de la nature. On a une nature extrêmement complexe, puisque au sommet, il y a la contemplation. Pas pour le gosse, mais un jour, on espère. Et puis, il y a toutes les lucarnes, des étages différents. Puis, il y a le sous-sol. Le sous-sol, c'est le biberon, n'est-ce pas ? C'est l'instinct naturel. Il y a tous les étages. Mais il y a forcément, ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas éduquer sans tailler. Et on ne peut pas tailler sans qu'il y ait des pleurs. Le refoulement. Mais tant qu'on pleure, ça va. Parce que, oui, mais alors quand l'enfant grandit, il ne pleure plus. Alors les refoulements sont beaucoup plus... le puissant, quelqu'un qui n'a jamais pleuré de sa vie, oh alors là, un jour la colère va commencer. Tandis que si tant que vous pouvez pleurer, ça va. Ne pleurez pas tout le temps, tu vois. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un charisme de pleurs, tu vois. Alors, vous pouvez toujours dire j'ai un charisme de pleurs. Acceptez ça, c'est... Alors, il faut comprendre que l'appétit naturel n'est pas le ça, n'est pas le S allemand. C'est pas le ça. L'indéterminé, c'est au contraire déterminé, l'appétit naturel. Et ce n'est pas premièrement subjectif, c'est finalisé. Tandis que l'instinct est pris subjectivement. Alors, je suis tout à fait d'accord de dire que l'instinct est une partie de l'appétit naturel. Mais c'est comme la partie, c'est comme si on détournait l'appétit naturel de sa finalité. Ou plus exactement, qu'on abstrayait la finalité pour ne plus voir que le besoin subjectif. D'où le manque. Une espèce de dialectique d'opposition entre les deux. Alors, il faut revenir, je crois, au point de vue philosophique, à tout ce que représente l'appétit naturel. Et comprendre que l'appétit naturel doit être éduqué, taillé, pour que cet appétit naturel, qui est au niveau végétatif, fondamentalement au niveau végétatif, puisse arriver petit à petit à s'élever jusqu'à un appétit spirituel. L'appétit spirituel, c'est la volonté. Il y a en nous une capacité d'aimer un bien spirituel. Mais entre deux, il y a l'imagination et toutes les passions. Et c'est là la zone extrêmement complexe de l'imagination liée aux passions. Parce qu'alors, on rêve, et c'est le rêve éveillé. Mais, s'il peut y avoir un signal, vous voyez, d'alarme, chaque fois que parmi vous, il y en a un qui commence à rêver, tin. Qui arrive à ne pas rêver du tout, pour tout orienter vers le but d'un appétit spirituel, d'une volonté aimante. Mais entre deux, c'est évident, il y a toute cette espèce d'imagination. Vous voyez, il fallait passer par le désert pour purifier l'imagination du peuple d'Israël, habitué à un stoïcisme effréné, celui du pharaon. Et pour rendre à Israël un appétit naturel normal, Dieu s'est mis à l'éduquer en lui donnant la manne. C'est extraordinaire, ça. Mais c'est très vrai que quand on a eu une éducation stoïcienne, ça existe, des pater familias, qui font « Mon fils, tu dois être un génie. J'ai été à Polytechnique, tu seras à Polytechnique. Or, le fils d'un artiste. » Et le père n'a pas compris du tout qu'il avait épousé une femme qui était du côté artiste. Tandis que de son côté, c'est scientifique. Et c'est, nécessairement, c'est l'aspect scientifique. C'était le dialogue, je me souviens, entre un jésuite qui était polytechnicien et un autre polytechnicien. Alors, il parlait de neveu. Alors il disait, oui, je ne suis pas la ligne. Alors l'autre pensait tout à fait que c'était entré chez les jésuites. Non, non, c'était Polytechnique. C'était plus bas. C'est une espèce d'atavisme comme ça, oui, qui s'impose. Ça, c'est le surmoi. Ça, c'est l'image merveilleuse du surmoi. On veut à tout prix comme ça. On impose. On ne tient pas compte de. Il y a quelque chose de juste, comme toujours. On ne tient pas compte du ça, c'est-à-dire de l'appétit naturel. Alors j'aime mieux dire appétit naturel, moi, parce qu'au moins il y a une orientation. On voit une finalité. Alors, qui est des refoulements, c'est évident. Il y a une taille. Dans l'évangile, on met une taille, la taille du Père. Et la taille du Père, normalement, ça fait qu'il y a des pleurs. Parce qu'on a coupé la scène, il y a des pleurs. Et puis de temps en temps, il y a un refoulement. C'est possible. Mais ça n'a pas d'importance. Ça fait des nœuds. Et des nœuds, ça fortifie. Mais quand le nœud est trop fort et que la finalité est supprimée, c'est un arrêt. Alors, il faut comprendre le ça qui est un appétit naturel. Alors, pour Aristote, pour Thomas d'Aquin, il y a deux appétits naturels différents. L'appétit naturel à l'égard du boire et du manger. L'appétit naturel au niveau sexualité, c'est-à-dire au niveau de ce que représente le point de vue de la fécondité. Et ces deux appétits distinguent l'un qui est au point de départ et qui apparaît tout de suite. L'enfant doit se nourrir. L'enfant doit respirer. Et respirer, se nourrir et boire, ça fait partie de l'aspect fondamental de l'être biologique. Ce qui est vrai, ça reste comme ça. Tandis que l'appétit sexuel, c'est l'être parfait, capable d'engendrer, et qui est ordonné au point de vue de la procréation. Alors, aujourd'hui, on ultra instinct. Et, pour Freud, les deux instincts se tiennent. Enfin, tout est commandé par l'instinct sexuel. Mais même l'appétit naturel de boire et de manger et de respirer. Alors, je crois que c'est là l'erreur et la confusion fondamentale. Il faut bien dire que c'est très très difficile aujourd'hui à le faire comprendre. C'est pour ça que je crois que là, pour nous tous, il y a une question qu'il ne faut pas résoudre trop vite. Quand on sait qu'on est dans un climat tout à fait inverse, il faut être très attentif. Alors, il y a première remarque, c'est que Thomas d'Aquin, ainsi qu'Aristote, c'est une distinction philosophique qu'ils font à partir de l'analyse. On définit un appétit naturel à partir du bien qu'on regarde. Or, le bien de l'alimentation, de la respiration, n'est pas le même que le bien de l'union sexuelle et de la procréation. Ça, c'est net. Et c'est pour ça qu'il met deux appétits distincts. Parce que ça implique une analyse, et l'analyse essaie de chercher la cause déterminante, spécifique, qui est la finalité, quand il s'agit de l'appétit, qui est le bien qu'on recherche. Le bien de l'individu, c'est la nourriture, c'est la respiration, c'est la boisson, boire. Ça, c'est l'individu. Et donc, l'appétit à l'égard de la nourriture est individuel et dépend de chaque individu. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de manger. Il y a des gens qui ont besoin de moins manger. C'est pour ça que c'était terrible dans le temps où la formalisation point de vue du jeûne existait. On était un grand mangeur ou un petit mangeur. Le matin, on vous donnait la même quantité de pain pour respecter le jeûne. J'ai connu ça encore. Alors moi, ça allait bien. Je mangeais pas trop. Mais à côté de moi, j'avais un frère vorace. Alors moi, j'étais terrible. On avait envie de couper le pain, lui donner la moitié. C'était qu'agace Freud. Et je comprends très bien, c'est agaçant. On peut être très bien d'accord avec Freud sur les erreurs qu'il a constatées. Où le formalisme l'emporte. Oui. Tout le monde, comme on a tous le même habit, on doit tous manger la même quantité. Non, on n'a pas la même tête, on n'a pas le même coffre. C'est sûr. Donc il faut respecter l'appétit naturel, c'est pour ça qu'on dit naturel, à l'égard du boire et du manger. Et puis, le point de vue de l'instinct sexuel, qui est l'appétit pour Aristote, vis-à-vis de la génération, vis-à-vis de la procréation. Alors vous voyez, Aristote le distingue par la finalité. Les modernes le distinguent par la jouissance. Et c'est ça qui fait que c'est tout à fait différent comme perspective. Il faut voir la finalité jusqu'au bout. Si on veut reprendre une véritable éducation qui soit pour aider la nature vers la finalité. Donc, si j'analyse au plan philosophique, les deux sont distincts. Si je regarde au point de vue descriptif ce qu'est Freud, au point de vue relation antécédent et conséquent, pour poser des lois, c'est beaucoup plus difficile de discerner parce que l'aspect générique l'emporte. Or, l'aspect générique, c'est l'instinct. L'aspect générique, c'est l'appétit. Mais l'appétit est distingué par sa finalité. L'instinct est distingué par quoi? Le sujet. Le manque. L'enfant n'a pas le biberon, il crie. Et si l'instinct sexuel n'est pas satisfait, il y a un refoulement qui est très mauvais. Double attitude, c'est très net aujourd'hui. Chez les psychanalystes, chez beaucoup de psychologues et des psychanalystes. Acquérir la vertu de chasteté, c'est accumuler les refoulements. Et un refoulement terrible qui est le point du destin sexuel. D'où ce que l'Église commande et demande le célibat et demande acquérir la vertu de chasteté. Mais c'est mettre l'individu dans un état d'impossibilité et de refoulement. Mais il faut bien comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend absolument pas ce qu'on vit actuellement. Parce que tout ce qu'on vit actuellement, ce sont des conséquences du freudisme. Des conséquences de la libération de l'instinct. La libération de l'instinct, c'est satisfaire tous ses besoins, tous. Libérer l'appétit, pas de contraintes, pas de refoulement. Supprimer le surmoi. Et laisser libre cours à l'instinct. Et ceci, c'est parce qu'il y a une confusion entre l'appétit naturel du boire et du manger et l'appétit de la sexuel. Alors qu'il faut maintenir la distinction, c'est deux choses différentes. Qu'il y ait génériquement une unité, pas le problème de l'unité, qu'il y ait génériquement une unité, c'est vrai, ce sont des instincts propres à l'homme, propres au développement du corps de l'homme. C'est sûr. L'homme est bâti de cette manière-là, et c'est... Si je vais jusqu'au bout dans un jugement de sagesse, je dirais que c'est la volonté de Dieu. Il a voulu le couple. Donc l'homme est bâti comme ça. Et donc c'est normal qu'il y ait un éveil de l'instinct sexuel, de l'appétit en vue de la procréation. C'est normal. Mais c'est aussi normal, puisqu'il est esprit, il est fait pour la contemplation. Qu'il puisse maîtriser cet instinct sexuel et le dépasser. Et c'est pour ça que saint Thomas dit, seule la contemplation peut assumer cet instinct sexuel, cet appétit sexuel. Il n'y a que la contemplation. contemplation. S'il n'y a pas la contemplation, il n'est pas assumé. Donc il est réfréné. Tout est refoulement. Celui qui est célibataire pour le plaisir d'être célibataire, tôt ou tard, il essaiera de retrouver les avantages du mariage. Tôt ou tard. Parce qu'on ne peut pas rester célibataire pour le plaisir d'être célibataire. Sauf dans un égocentrisme effrayant. Ce que j'ai quelquefois connu, c'est dès qu'on se marie, le patrimoine est divisé. Et si le patrimoine est divisé, les petits-fils pleureront que le grand-père s'est marié. Mais s'il ne s'est pas marié, il n'y aura pas de petits-fils. Il y a quelquefois cette vision-là. C'est pour ça que le célibat, comme tel, quand il n'est pas dans la vie religieuse, c'est un célibat forcé. Quand il est dans la vie religieuse, et en vue de la contemplation, mais une vie religieuse contemplative, ce n'est pas la vie religieuse comme vie religieuse qui peut permettre d'assumer le célibat, d'assumer l'instinct sexuel. Il faut la contemplation, parce que l'homme a besoin de joie. Et seules les joies spirituelles peuvent assumer les joies d'ordre sexuel. Mais je crois qu'il faut saisir ça avec beaucoup de force et beaucoup de netteté. Et Freud n'a vu que l'aspect de Kant. Il faut. Donc le stoïcisme, tu dois faire ça. Alors si tu dois faire ça, ça ne donne pas beaucoup de joie. Et donc, le refoulement devient terrible et dangereux. Mais Freud ne voit pas la perspective véritablement chrétienne. Et la perspective véritablement humaine. C'est très vrai que c'est l'amitié qui est une finalité. Ce n'est pas l'union sexuelle qui est une finalité. L'union sexuelle peut se comprendre comme manifestant l'amitié, mais elle n'est pas l'amitié. Et c'est à partir de là que, de fait, on a donné à l'instinct sexuel une détermination qu'il n'a pas. Parce que l'union sexuelle est ordonnée à la fécondité, ou l'union sexuelle est une manifestation d'amour, d'amitié. Mais il n'est jamais premier. Et donc, s'il n'est pas premier, il peut être assumé. Philosophiquement, par un amour plus fort. Mais il faut un amour plus fort. Vous voyez ? C'est dans la croissance de cet appétit naturel, je dis bien dans la croissance de cet appétit naturel, comprenez, l'appétit naturel, à la base, il est individuel. Cet appétit naturel va rencontrer toute la zone des passions, donc de l'imaginaire, de l'imaginaire, toute cette zone-là. Donc j'ai conscience, l'appétit naturel, il a quelque chose d'inconscient ou de préconscient. C'est vrai, l'appétit naturel n'est conscient que par les passions. Et non pas par les refoulements. L'inconscient existe naturellement. Et c'est vrai, il y a quelque chose d'inconscient en moi. Dans mon corps, il y a des tas de virtualités dont je n'ai pas encore conscience. C'est pour ça que je dis que c'est toujours un terrain volcanique. Et ça restera un terrain volcanique. Et l'écriture le montre bien. Les vieillards de 70 ans qui se trouvent enflammés devant la belle Suzanne. C'est tout à fait ça, terrain volcanique. Et ils sont des juges. Donc ils devaient être un peu maîtres d'eux-mêmes. Alors, et puis il y a l'appétit spirituel. La volonté. l'appétit spirituel. Peu, alors il se développe parfaitement. Contemplation, amour d'amitié. Voilà les deux finalités. S'il y a ces deux finalités, l'appétit naturel, instinctif du boire et du manger, l'appétit naturel, sexuel, ordonné à la procréation. Peut-être assumé par cet appétit spirituel. Mais si cet appétit spirituel n'existe pas, vous comprenez bien, si c'est uniquement la loi qui le surmoi dans le langage, analytique. Non. Vous comprenez bien que cet appétit sexuel, il ne pas, tu n'as pas le droit de faire ça en dehors du mariage. Alors, ça fait un refoulement terrible de tout cet instinct sexuel, de tout cet appétit qui devient quelque chose de terrible, qui ordinairement est alimenté de l'imaginaire. Alimenté aujourd'hui du cinéma, de tout ce que vous voulez. Parce que tout le temps on en parle. Ça devient le leitmotiv. Il ne peut pas y avoir un film sans qu'il y ait. Toujours. Oui, alors ça alimente et ça fait qu'un monde devient fou furieux. Oui, je crois qu'il faut voir ça. Et que, en face de cela, l'appétit spirituel qui, lui, assume. La vertu, ce n'est pas du tout un refoulement. La vertu, c'est au contraire la taille du Père pour que l'aspect spirituel arrive à transformer cet appétit naturel. C'est pour le boire et le manger, c'est comme ça. Vous voyez, vous pouvez très bien, les jours de jeûne, dire « Aujourd'hui, j'ai mangé, mais je crois que ça va durer une demi-heure. » Au bout d'une demi-heure, j'aurai faim. Et je devrais garder toute la matinée à avoir faim. Et je vais penser tout le temps à avoir faim. Et ça va augmenter moins. On en vient fou. Puis on ne peut rien écouter d'autre. J'ai faim. Mais alors, le jeûne, à la place d'être quelque chose qui vous aide, d'être plus spirituel, fait que vous ne pensez plus que vos doigts de pied. Vous ne pensez plus que votre corps. Enfin, c'est plus qu'à votre fin. C'est lamentable. La finalité est complètement terminée. Tandis que la vertu fait assumer. Et c'est là où on comprend comment l'éducation de l'appétit spirituel va impliquer l'acquisition des vertus.